Chapitre 22. Renouvellement et nouvelle naissance. L'expérience de la justification met fin à l'ancienne vie que l'on a vécue sans Dieu et elle dirige le renouvellement intérieur. Bien qu'il s'agisse d'une seule œuvre de rédemption et de délivrance, l'œuvre de grâce divine s'accomplit dans les divers domaines de notre vie, et c'est pourquoi différentes notions sont employées pour l'exprimer. C'est par le réveil que tout commence. L'homme séparé de Dieu et qui de ce fait est spirituellement mort est comme secoué pour être réveillé. Ceci arrive par l'Esprit de Dieu pendant la prédication de l'Évangile. Jusqu'à ce moment précis et sans le savoir, cet homme est en vérité spirituellement mort. Pour lui, tout est en ordre dans le monde et il n'a nullement conscience que quelque chose pourrait ne pas aller. Qu'un homme soit religieux ou pas, il repousse toute pensée d'un au-delà, celle d'une responsabilité personnelle devant Dieu et d'un jugement dernier. S'il n'exclut pas totalement une telle possibilité, il se dit en lui-même et le proclame à haute voix « Je n'ai tué personne, je n'ai pas fait ceci ou cela. » Ainsi, cela ne sera pas si grave au cas où une telle chose devrait arriver. Eh bien voilà, en vérité, il arrivera effectivement quelque chose. C'est pourquoi tous devraient savoir que Dieu n'est pas un bon vieux grand-père ou un cher oncle auprès duquel on peut trouver faveur par quelques bonnes paroles. Car à ce moment-là, Dieu ne sera plus le bienveillant sauveur, mais le juge sévère. Il est lié à sa propre parole et doit juger tout homme conformément à celle-ci. De même que maintenant, il est lié à sa parole et qu'il pardonne à chacun de ceux qui croient en lui, qu'il lui fait grâce, le libère et le justifie, ainsi il jugera justement en cette occasion tous ceux qui l'ont bravé, contredit et ont rejeté ses voies de salut. Ceux également qui ont tenté de chercher le salut à leur propre manière, sans se confier réellement en Dieu, seront grandement désappointés. En réalité, il ne s'agit pas seulement de croire en Dieu, mais bien de croire Dieu et de croire conformément aux voies de salut qu'il a établies pour l'humanité. Celui qui ne croit pas Dieu fait de lui un menteur. 1 Jean 5:10. Tout d'abord, il est de fait que l'homme naturel, même s'il est très religieux et agit comme tel, ne discerne pas les choses spirituelles. Cela commence donc, comme nous l'avons déjà mentionné, par le réveil, par une secousse de la conscience, laquelle fait sortir du sommeil de la mort spirituelle. Lors de la prédication de Pierre à Pentecôte, les gens furent tellement saisis, ébranlés intérieurement et réveillés qu'ils s'écrièrent « Que ferons-nous, frères ?» Actes 2:37. Lors de la prédication de l'Évangile, différentes expériences sont faites par les auditeurs croyants. Lorsque Pierre prêcha dans la maison de Corneille, et au cours d'une seule prédication, toute l'œuvre de Dieu s'accomplit en une seule fois, allant de la conversion jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Actes 10:34 à 48. C'est selon la position intérieure de l'auditeur, de son attente dans la foi et de la pleine autorité de la prédication que l'Esprit de Dieu peut agir conformément à la parole annoncée. Il est bon qu'à cet égard, aucun chablon n'ait été donné à appliquer. La foi agissante, réellement valable auprès de Dieu, vient de la prédication, c'est-à-dire du message du plein évangile. Toutes les expériences nécessaires au salut peuvent être faites par ceux qui écoutent la parole. l'Esprit de Dieu commence à agir dans une personne, lui accordant la connaissance d'elle-même qui va la conduire au repentir. Alors cette personne ressent avec douleur les choses qu'elle n'avait pas faites correctement et elle en demande pardon à Dieu. La conviction de péché pénètre si profondément un homme qui se trouve dans la présence du Dieu Saint qu'il s'écrie « Seigneur, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Il s'ensuit un changement de vie et une réparation. Celui qui volait ne vole plus, celui qui mentait ne ment plus. Il y a une réelle conversion à Christ et un renouvellement qui aboutit à une nouvelle naissance. Celui qui a été ainsi saisi par la conviction de péché prie le Seigneur de lui pardonner tous ses méfaits et il reconnaît devant lui ce qui charge son cœur et l'oppresse. Pendant la prière, il se passe quelque chose de tout à fait extraordinaire, à savoir l'œuvre surnaturelle de la grâce. Subitement, la certitude du salut et la paix de Dieu entrent dans son cœur. Une personne qui éprouve la repentance sait qu'en cet instant, c'est la foi en Jésus-Christ qui sauve. C'est une expérience réelle, un événement intérieur perceptible, une action directe de l'Esprit de Dieu dans la personne qui devient croyante. L'Esprit de Dieu rend ensuite témoignage à son esprit qu'elle est devenue une enfant de Dieu. Romains 8:16. Le salut en Christ peut être aujourd'hui encore expérimenté. Il est une expérience pratique. Lorsqu'un homme se tourne vers Dieu avec une foi véritable et lui ouvre son cœur en toute confiance, c'est-à-dire qu'il ne dit pas seulement « Je vais une fois là-bas juste pour écouter ce qui se dit », mais bien celui qui vient dans la position correcte et qui commence à parler avec le Seigneur après avoir écouté ce qu'il lui a dit à travers la prédication, cet homme peut, aujourd'hui encore, faire une expérience véritable avec Dieu comme dans le christianisme primitif. Dieu est digne d'être cru. On peut réellement lui faire confiance. Le fait est que malheureusement, au travers des nombreuses et diverses orientations de foi dans l'Église, le chemin étroit suivi par le Seigneur et ses disciples, avec les expériences qui les accompagnèrent, n'a été présenté qu'au travers d'une image totalement défigurée. Dans notre conversion avec Dieu, nous devons le croire comme un enfant et lui répondre comme si nous répondions à une lettre qui nous serait adressée. Nous nous reportons à ce qu'il nous a écrit car, au travers de sa parole, Dieu nous parle réellement, et dans la prière, nous parlons à Dieu. Il nous offre sa grâce et nous fait connaître sa volonté. Nous nous rapportons à cela dans la prière et le remercions pour tout cela. C'est ainsi que l'homme parvient à une communion personnelle avec Dieu. Dans la foi et la confiance, nous nous laissons interpeller par la parole et nous réalisons subitement que c'est à nous qu'elle s'adresse tout personnellement, comme lorsque Jésus dit à Nicodème « en vérité, je te le dis, si quelqu'un n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Jean 3:3. L'événement de la nouvelle naissance est somme toute une condition divine absolue pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit. Il vous faut être né de nouveau. Jean 3:7. Cet événement de la nouvelle naissance n'a absolument rien à voir avec la philosophie de la réincarnation, laquelle est souvent désignée par incompréhension comme étant la nouvelle naissance. Lors de la nouvelle naissance telle qu'elle nous est enseignée dans les Saintes Écritures, l'homme ne revient pas sous une autre forme ou une autre figure, mais au contraire, lorsque l'homme, tel qu'il vit en sa chair, devient un croyant et reçoit la parole de Dieu en lui, le Saint-Esprit accomplit l'engendrement et apporte dans l'âme de cette personne une vie nouvelle, une vie divine. Nous pouvons alors témoigner dans la joie, mais quand la bonté de notre Dieu Sauveur et son amour envers les hommes sont apparus, il nous sauva, non sur le principe d'œuvres accomplies en justice que nous eussions faites, mais selon sa propre miséricorde, par le lavage de la régénération et le renouvellement de l'Esprit-Saint, qu'il a répandu richement sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, ayant été justifiés par sa grâce, nous devinssions héritiers selon l'espérance de la vie éternelle. Tite 3, 4 à 7. Au chapitre 2 de Tite, verset 11, l'apôtre Paul écrit « Car la grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les hommes. » L'homme qui a reçu la grâce reconnaît les choses qui servent à son salut et qui lui sont nécessaires. Dans les Épîtres, nous sont présentées les expériences de ceux qui, pour la plupart, avaient vu le Christ et avaient vécu avec lui. Et comme il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, Hébreux 13, 8, il fait les mêmes choses envers tous ceux qui viennent à lui. Celui qui reçoit la parole de la vérité fait l'expérience de ce qui est promis en elle. De sa propre volonté, il nous a engendrés par la parole de la vérité, nés de nouveau, pour que nous soyons une sorte de prémisse de ses créatures. Jacques 1, 18. L'apôtre Pierre exprime la même pensée lorsqu'il écrit « Ayant purifié vos âmes par l'obéissance à la vérité, pour que vous ayez une affection fraternelle sans hypocrisie, aimez-vous l'un l'autre ardemment, d'un cœur pur, vous qui êtes régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la vivante et permanente parole de Dieu. » 1 Pierre 1, 22-23. Celui qui a fait une expérience personnelle avec Dieu, telle que celle qui nous sont décrites dans la parole de Dieu, celui-là devient une partie de sa parole et de sa volonté. Et par ce fait même, il se trouve inclus dans les desseins de salut de Dieu. De telles personnes peuvent à leur tour classer correctement dans son contexte tout ce qui est écrit. Cette parfaite union des rachetés avec leur Rédempteur est indispensable afin que chacun voie les choses de la manière qu'il les voit, lui, et qu'il veuille ce qu'il veut. C'est avec l'expérience de la conversion, du renouvellement et de la nouvelle naissance que commence la marche du disciple avec Jésus-Christ. L'être tout entier est engagé dans cette marche. En ce qui concerne la marche d'un disciple, beaucoup de passages bibliques pourraient être lus. Pour un disciple, le Seigneur occupe subitement la première place dans sa vie. Si cela est nécessaire pour le royaume de Dieu, même sa maison et ses biens, sa femme ou son mari, ses frères et sœurs, ses parents ou ses enfants, ses amis et tout le reste doivent être laissés en arrière. Luc 18, 29. C'est-à-dire que si seule de toute une famille, cette personne vient à la foi, il ne peut se laisser retenir par elle. Devenir disciple de Christ ne signifie pas que l'on va entrer dans un couvent ou dans un ordre religieux, mais que, tout en demeurant dans sa situation familiale et professionnelle, le disciple de Christ va organiser sa vie de chaque jour conformément à la volonté de Dieu. Le fait d'abandonner le chemin large pour suivre le chemin étroit entraîne certaines conséquences pour chacun. Personne ne peut servir deux maîtres. Personne ne peut suivre deux chemins différents en même temps. Le choix doit être fait et la décision prise. Ce qui fait que la manière de vivre de chacun rend témoignage du chemin sur lequel il est engagé. L'expérience du renouvellement concerne le cœur de l'homme, et cela conformément à la parole d'Ézéchiel 36:26. Et je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau. L'homme intérieur renouvelé se trouve placé devant la grande tâche de se défaire de toutes les choses qui enlaçaient si facilement le vieil homme. À proprement parler, chaque homme incrédule mène une vie double. Il n'est pas ce qu'il prétend être, ni ce que les autres pensent qu'il est. Chaque personne a deux visages. Une fois, il se montre tel qu'il voudrait être, puis à nouveau tel qu'il est réellement. Sur ce point aussi, l'Écriture nous enseigne des plus clairement. C'est-à-dire, en ce qui concerne votre première manière de vivre, d'avoir dépouillé le vieil homme qui se corrompt selon les convoitises trompeuses et d'être renouvelé dans l'esprit de votre entendement et d'avoir revêtu le nouvel homme créé selon Dieu en justice et sainteté de la vérité. Éphésiens 4:22-24. Au verset suivant, nous est présentée toute une liste des choses qui n'appartiennent pas à la vie nouvelle. Après que la conscience de l'homme ait été réveillée de la mort spirituelle, l'Esprit de Dieu le met en garde contre les choses qui ne sont pas justes à ses yeux. Cela fait partie de la sanctification de la personne venue à la foi. Et ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement, pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne et agréable et parfaite. Romains 12:2. Quiconque devient disciple de Jésus ne porte pas la croix en tant qu'ornement suspendu au cou ou agrafé sur la poitrine, mais il prend sur lui l'opprobre de Christ, le crucifié, et suit le chemin étroit qui conduit à la vie éternelle. Matthieu 16:24. Paul termine son épître aux Galates par ces mots. « Mais qu'il ne m'arrive pas, à moi, de me glorifier, sinon en la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par laquelle le monde m'est crucifié, et moi au monde. » Galates 6:14. Seul celui qui est mort pour le monde et pour lequel ce monde est mort peut vivre avec Christ déjà dans ce monde et dans le monde à venir. Tout le reste ne constitue que vœux de piété religieuse venant de son propre fond et qu'effort humain sans cesse accompagné de nouveaux et bons préceptes, mais qui, tous ensemble, sont destinés à l'échec. Les rachetés représentent réellement pour Dieu une troupe de prémices qui lui sont agréables. On doit malheureusement relever dans ce domaine également un développement erroné qui n'a rien à voir avec la notion biblique de « tout abandonner pour suivre le Seigneur ». Dans le christianisme primitif et au cours des premiers siècles, tout comme chez les véritables croyants de tous les temps, et maintenant encore au XXe siècle, ceux qui faisaient une expérience avec Christ vivaient, juste là où ils se trouvaient, de la manière que l'on attend de ceux qui sont venus à la foi, Aucun d'eux ne se retirait dans un cloître, ni ne se plongeait dans de pieuses méditations fondées de nouveau sur sa propre justice. Les apôtres et les croyants de l'Église primitive vivaient, à tout point de vue, une existence tout à fait normale, mais ils la vivaient avec Christ. Au lieu de travail, dans sa famille, au village ou en ville, chacun était uni à Christ, et de cette manière, il était un témoin vivant de la grâce qu'il avait expérimentée. Celui qui est venu à la foi a la possibilité, par la force que Dieu lui donne, de vivre une vie tout à fait normale dans les limites de la parole de Dieu. Le mariage, la profession et tout ce qui fait partie du domaine terrestre sont compris dans cette vie normale du croyant. Il ne s'agit pas de retirer les gens du monde, mais bien du fait que ce qui est du monde soit retiré d'eux.